Je pense que nous nous sommes laissés sur quelques exemples que vous nous avez donnés qui portent sur l'actualisation, en somme, de la justice intérieure.
Oui.
Est-ce que vous aimeriez reprendre un ou deux des exemples ou nous en donner des nouveaux?
Peut-être une autre manière d'aborder la chose pour montrer que cette béatitude-là, c'est le but de Dieu sur nous autres, c'est notre accomplissement, c'est le bonheur des bonheurs qui nous attend, que nous sommes en pèlerinage. J'aimerais revenir sur la nature de cette béatitude-là à partir d'un fait ou d'un exemple ou d'une petite parabole, là. Alors, mettons que je manque à la loi. Bon, je passe sur une rouge, alors qu'est-ce qui arrive? La police arrive, elle m'arrête, elle me demande mon permis de conduire. Bon, là, je sors mon permis de conduire, elle voit mon adresse, pas de problème. Bon, OK, c'est bien moi. Elle questionne Charlotte, le gros ordinateur, puis je suis entré dedans, puis c'est bien moi. OK, elle m'a identifié. Elle a identifié quoi, en fait? Où je demeure? C'est là qu'elle a identifié. Mais où je demeure, là, c'est quoi ça? C'est une maison? Oui, c'est une maison.
Mais là, exact. Puis, et il a également identifié le fait que vous existez, que vous êtes la personne en question.
Oui, et il l'a fait à partir de mon identité, de mon identification physique, où je demeure sur la planète. Alors, je demeure à Sainte-Foy, je demeure dans la province de Québec, je demeure au Canada, je demeure en Amérique du Nord, je demeure sur la planète Terre. La planète Terre se trouve dans la galaxie Nord supérieure, en arrière de la dernière étoile que je connais pas. Mais tout ça, c'est toujours me dire à côté de qui je suis ou à côté de quoi je suis. Au fond, c'est je suis à telle place à côté de telle autre. Au fond, c'est ça.
Il vous situe dans un système.
Il me situe dans un système physique où je suis toujours à côté de quelque chose. Au fond, je suis à côté. C'est ça, au fond. Alors, c'est bon, ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment moi, ça? Ben non. Alors, par le physique, on peut savoir à côté de quoi je suis. Mais c'est tout à fait relatif. Mais qui je suis vraiment et quoi je suis vraiment, c'est une autre question, ça. Alors là, au plan spirituel, si je me demande qui je suis... Au fond, je ne sais pas trop parce que je viens de découvrir que physiquement, je suis rien qu'à côté de quelqu'un ou à côté de quelque chose. Alors, on voit bien que j'ai... Et si je passe sur la verte, ça ne veut pas dire que je t'accomplis comme homme. Ça veut dire que la police me laisse passer, puis je suis encore à côté de quelque chose. Alors, au fond, des fois, dans la vie, on se sent toujours à côté. On sent qu'on ne s'accomplit pas. C'est qu'au fond, on n'a peut-être pas découvert notre identité. On est en chemin de travailler à observer les lois, tout ça. C'est bon à travailler, à se faire vivre, à pas voler. C'est bon, mais c'est pas ça ma vraie identité. Alors, pourquoi j'ai acheté cette maison-là? Parce que j'aimais une femme. C'est pour ça que j'ai acheté cette maison-là. Si cette femme-là se trouve plus à maison, c'est où je vais aller, moi? Pensez-vous que je vais rester à maison tout le temps? Je vais aller ailleurs. Je vais aller ailleurs où il y a quelqu'un qui m'aime. Alors, c'est où?
Vous dites que la maison a perdu sa raison d'être.
A perdu sa raison d'être. Ma demeure, c'est pas rien qu'une demeure physique. C'est quelqu'un que j'aime. Alors, au fond, c'est que je suis une personne qui est faite pour habiter une autre personne. C'est ça ma vraie adresse. C'est pas rien qu'à côté d'une étoile, à côté d'une étoile, à côté d'une province, à côté d'un meuble, à côté d'un poêle, même à côté de quelqu'un qu'on se parle pas. C'est, même si c'est marqué sur mon permis de conduire où je demeure, ma vraie demeure, c'est quelqu'un qui m'aime et c'est quelqu'un que j'aime. Et ma vraie demeure, c'est Dieu lui-même.
Alors, vous revenez toujours sur le principe de la communication avec l'autre.
La communication amoureuse et parfaite entre deux personnes qui vivent l'un dans l'autre, voilà où je demeure. Et tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive, toutes mes fins et soifs ne seront accomplis qu'à cette condition, qu'à cette situation, qu'à cette réalisation, qu'à cette plénitude.
Vous soutenez, M. Truchon, que la conjugaison, l'actualisation des deux types de justice, intérieure et extérieure, serait impossible sans l'intervention de l'Esprit-Saint. De la grâce, de la conversion, etc. Du même souffle, vous affirmez donc que cette justice totale, l'homme et la femme ne sauraient y atteindre par leurs propres moyens.
Si on comprend que notre accomplissement ne sera rassasié ou ne sera réalisé qu'en Dieu seul, bien certain, l'Esprit-Saint, c'est la manière de vivre des trois personnes de la Trinité, c'est l'un dans l'autre, l'un par l'autre, l'un pour l'autre. Alors, l'Esprit-Saint en nous aussi nous permet de devenir la demeure de Dieu et que Dieu devienne notre demeure, la demeure de l'émission, que Dieu devienne notre demeure. Alors, c'est certain que notre accomplissement, c'est l'Esprit-Saint seul qui peut l'accomplir et c'est pour ça qu'on avait parti l'histoire des Béatitudes en disant que Dieu seul peut nous rendre heureux. de son bonheur à lui. Le bonheur des maringouins, ben là, je sais pas.
Donc, personne ne peut décider seul qu'il accède à la justice intérieure.
Non seulement il ne peut pas, et qu'il décide ou pas, il ne sera jamais capable, parce que même, écoutez, l'amour est impossible seul. Écoutez, je ne suis pas la fin de moi-même, je suis là pour un autre. Alors même si mon moi est absolu en un sens qu'il est appelé à prendre toutes les commandes dans son autonomie, c'est que même devenant libre, ma liberté n'a pas de sens sans l'amour. Alors c'est évident que la perfection, c'est la perfection d'une communion, et pas simplement avec soi-même, mais avec un autre.
Le projet réel de Dieu est de voir l'Esprit-Saint envahir chaque cœur. J'aimerais d'abord savoir d'où vous vient cette révélation et ensuite j'aimerais surtout savoir pourquoi Dieu, notre Dieu qui est tout-puissant, ne permet pas à chacun d'être envahi par l'Esprit-Saint, comme vous dites, dès la naissance, par exemple.
Bien, dès la naissance, l'Esprit-Saint est là. Il était là sur les eaux lors de la création du monde. Seulement que, quand on parle de présence de grâce, il faut un consentement. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans consentement ni liberté. Alors, Dieu nous appelle à le connaître, à le rencontrer et à consentir. Alors, toute notre vie, c'est un apprentissage à aimer, mais ça ne peut pas être forcé. Donc, l'amoureux est là en nous, caché au départ, il frappe à la porte, il attend, il nous fait signe, il nous fait des appels. Mais l'Esprit-Saint est en chaque homme qui vient au monde, et on le voit dans le prologue de Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Tout homme est la lumière, mais cette lumière-là, elle nécessite nos consentements, nos apprentissages, et surtout nos consentements. C'est nos consentements, parce que même le péché lui-même, à cause de Jésus, le péché est détruit. C'est nos consentements.
Elle est seulement en puissance, donc.
Elle est en puissance de recevoir cette grâce qui est là en nous et qui va apparaître et s'identifier de plus en plus par nos consentements progressifs. Donc la prière, le jeûne et l'aumône, le pardon, toute la révélation que font les traditions religieuses sont là pour arriver à nous conscientiser à cet accueil de l'infini pour lequel on est fait. Puis dans le christianisme, ce qui est plus extraordinaire, c'est que c'est gratuit au départ, c'est donné au départ. Parce que dans les autres religions, à ma connaissance, il faut le gagner à coups de bras. Tandis que dans la religion chrétienne, on est forcé à développer ce qui nous est donné déjà gratuitement, imaginez.
Mais qu'est-ce que vous faites des gens qui n'y auront jamais consenti, qui ne l'auront jamais accueilli?
On n'en sait rien. Parce que Judas lui-même, on ne peut pas dire qu'il n'est pas au ciel. L'Église ne l'a jamais condamné en enfer. Évidemment, la corde, il a coupé la respiration, là. Ça fait qu'on n'a plus de renseignements. Mais... on ne sait pas ce qui se passe à la mort, on ne sait pas ce qui se passe avec Dieu, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin des temps. Moi, je prie pour que l'enfer soit détruit, puis tous les saints ont voulu aller donner une chance à ceux qui étaient en enfer, même Jean 23 voulait aller lui poser l'air climatisé. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, voulait aller lui donner un coup de main. Écoutez, si, quand on est heureux, on veut que tout le monde soit heureux, mais on peut forcer personne.
Chers amis, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous traitons de la quatrième béatitude, celle des assoiffés de justice. Et mon invité, comme d'habitude, est M. Truchon. M. Truchon, vous écrivez que les deux plus grands péchés consistent d'abord à personnaliser une chose, c'est-à-dire lui donner une importance qu'elle n'a pas, et deuxièmement, à chosifier une personne, c'est-à-dire à priver une personne de sa liberté, de sa personnalité, de sa condition humaine. Ça me paraît une simple leçon de discernement, est-ce que vous ne croyez pas?
Oui, de discernement et de correction à faire, parce que nous sommes dans la béatitude de la sainteté, qui consiste à aimer parfaitement quelqu'un, Alors que là, on est en train d'expliquer les façons de se pervertir, c'est-à-dire de détourner, de nous détourner dans notre voyage, si on pourrait dire, de faire un détournement de parcours, puisque c'est la béatitude du pèlerinage, du voyage. Alors, c'est certain qu'il y a deux grandes manières de pécher parfaitement. La première, c'est de chosifier une personne, c'est-à-dire de la prendre pour une chose, d'en faire soit un simple moyen de consommation ou d'un simple moyen de production.
Quand vous dites péché parfaitement, vous voulez dire un péché ultime.
Le péché parfait, c'est-à-dire le détournement parfait de notre parcours ou de notre direction ou de notre construction ou la manière parfaite de se détruire, au fond, ça représente les religions. Par exemple, les religions qu'on dit primitives, ce sont des religions où on déifie les forces de la nature. Alors, qu'est-ce qu'au fond? Au fond, on prend le soleil pour quelqu'un. Bon, alors on se confie au soleil, on prie le soleil, on fait des cadeaux au soleil, alors qu'au fond, c'est de valeur parce que le soleil n'est pas intelligent. C'est une force de la nature. Alors, si tu t'exposes trop au soleil, tu vas te faire brûler, quand même tu feras allumer des cierges, tu vas te faire brûler pareil. Alors, ça, c'est une façon de pécher, c'est de personnaliser une chose. Évidemment, le petit enfant de 4 ans, il va parler à son nounours dans sa chambre quand t'es tout seul, mais c'est un processus d'apprentissage. C'est évident qu'à 21 ans, il fera probablement plus ça. Quoi qu'il sait très bien, l'enfant, il est pas fou, qu'il est en peluche, le petit nounours, puis que quand il arrache un œil, au fond, que c'est un nounours en peluche. Mais il reste que c'est un moyen pour lui de se personnaliser, de s'identifier, de rencontrer quelqu'un ou de se souvenir de quelqu'un ou d'aimer quelqu'un qu'il a déjà rencontré.
Alors, ça n'est pas entièrement mauvais.
C'est un processus. Comme les religions dites primitives sont des processus d'apprentissage du vrai Dieu, mais au fond, quand on fait ça avec quelqu'un à 40 ans, là, ça commence à faire. Là, autrement dit, là, on chosifie une personne. Si, à un moment donné, c'est-à-dire, on personnalise une chose, à un moment donné, si j'aime plus la pantoufle de ma femme que la femme, là, ça commence à faire. Autrement dit, si j'aime plus un de ses vêtements, là, tu sais, là, fétichiste, là, plus qu'elle-même, là, puis que je catine avec le vêtement, ben, ça commence à faire, là.
Hein? On pourrait aussi parler d'un exemple peut-être plus extrême, comme, je pense à l'avarice.
Pareil,
la personne
avec
qui
l'argent.
Va adorer l'argent.
Oui, avec l'argent ou le sexe, nos organes, là, tu sais, qu'à un moment donné, là, c'est plutôt les organes du bas qu'on privilégie ou qu'on adore. Alors, c'est la façon, ça, de au fond, c'est la séparation d'une puissance de la personne. C'est de personnaliser une puissance. Alors, ça va finir non seulement en cystite de voyage de noces, mais ça peut finir très mal. Alors, maintenant, une autre façon de faire le mal parfaitement, c'est de chosifier une personne. Là, je viens justement d'en parler, je suis tombé dans l'autre manière. Là. La première, c'était personnaliser une chose, des religions dites primitives. La deuxième façon, c'est chosifier une personne, c'est d'en faire un moyen de consommation ou de production. C'est ça plutôt.
C'est de l'exploiter, en fait.
C'est de l'exploiter purement et simplement, puis si elle ne nous sert pas, on la rejette, puis c'est fini là. Autrement dit, c'est une écorce vide. Ça aussi, c'est une manière parfaite de pécher et de nous détourner de notre fin. Et à ce moment-là, c'est une injustice et ça sera le drame, la révolution, puis les chicanes, puis tout, pour retrouver la justice, pour retrouver la vraie personne. Et c'est là qu'on appelle aujourd'hui la femme objet, le pornographique, par exemple. C'est quoi la ligne entre le pornographique puis le pas pornographique? Ben, c'est évident que c'est dans la tête surtout que ça se passe. Parce que, mais si, par exemple, la façon de présenter une personne nue, ça nous incite uniquement au plaisir, sans la responsabilité ou sans la communion ou sans le respect de la personne ou pour simplement de l'argent, ben voilà, on vient de chosifier une personne.
Je pense encore à l'exploitation des enfants sur le marché du travail.
Même chose. Tout ce qui va empêcher la personne de se construire pour un but immédiat et destructeur.
Et qui ne tient pas compte de la personnalité de l'autre.
Exact. Comme par exemple, un riche. Qu'est-ce que c'est qu'un riche? Qu'est-ce que c'est qu'un riche? Quelqu'un qui a de l'argent. Est-ce qu'il y a un mauvais... on peut être un mauvais riche? Oui. Pas à cause de l'argent, à cause de l'utilisation qu'on en fait. C'est qu'on essaye d'accumuler de l'argent, on ne s'occupe pas du développement des personnes. Alors, au fond... Quand on passe dans une région, on a tout vidé, il ne reste plus rien. Ça, c'est un mauvais riche. C'est quelqu'un qui est insensible aux autres. Tandis qu'on peut avoir, par exemple, un bon riche, quelqu'un qui s'occupe de développer les gens. Là, je ne veux pas canoniser Pelado, mais Pelado s'occupe des gens. Alors, je ne dis pas qu'il le fait tout le temps. Je ne veux pas le canoniser. C'est pas moi qui suis pape. Mais un mauvais riche, c'est quelqu'un qui exploite les autres à la corde. Puis il ne développe pas. Un bon riche, ben c'est Dieu d'ailleurs qui est le plus riche des riches, c'est lui qui a tout. Mais il donne tout pour que les gens se construisent et soient heureux.
Selon vous, la vraie justice extérieure ne sera efficace que si elle vient du cœur et exprime un cœur déjà juste, justifié, amoureux, rien sans l'autre. Il y a donc des manifestations de justice extérieure qui sont fondées sur une justice intérieure et d'autres qui ne le sont pas. Alors, comment apprendre à les distinguer? Est-ce que c'est bien nécessaire de pouvoir le faire? Et comment se mesure l'efficacité dont vous parlez?
Oui, c'est nécessaire. Par exemple, on dit que les trois pratiques des grandes religions, c'est la prière, le jeûne et l'aumône. Parlons de l'aumône. C'est quoi l'aumône? C'est un acte gratuit pour un autre qu'on aime. C'est quoi l'accomplissement de soi-même? C'est pas rien que d'obéir à la loi puis de pas se faire pogner par la police parce qu'on obéit la loi. L'accomplissement de soi-même, on vient de le dire, c'est l'amour. Alors, est-ce qu'il y a moyen de voir que l'amour existe entre deux personnes? Oui. Quand quelqu'un souffre et qu'un autre essaye de l'aider gratuitement, et même s'il est payé comme un psychologue, il reste qu'il le respecte dans ses droits. Mais encore plus s'il le fait gratuitement. Alors le symbole de notre accomplissement social, c'est en fait les bénévoles. Les bénévoles, s'il n'y avait pas de bénévoles, les systèmes pourriraient, ils seraient pourris, parce que c'est un système, au fond, qui est basé simplement sur le profit. Alors le profit, chacun cherche son profit, chacun cherche son profit. Ça, il n'y a pas d'amour là-dedans. L'amour, c'est quand on ne cherche que le profit de l'autre, à un moment donné. Est-ce qu'il est possible d'aimer vraiment quelqu'un? Un jour, quelqu'un me disait, on aime toujours soi-même en aimant un autre. Je disais, un instant. Un instant. Aimer un autre, c'est ne penser qu'à l'autre quand on veut y faire plaisir et ne pas penser à soi. Aimer Dieu, c'est d'être capable de faire plaisir à Dieu en pensant à Dieu seul. Aimer une autre personne, c'est d'être capable d'aimer à y faire plaisir en faisant plaisir à elle seule et en pensant pas au contentement qu'on va en tirer. S'aimer soi-même, c'est d'être capable de se faire plaisir en pensant rien qu'à soi. Le signe qu'on est sur le chemin du salut, qu'on est dans l'accomplissement de la béatitude, c'est celui-ci, c'est chaque jour être capable de faire plaisir à trois personnes en pensant rien qu'à une à chaque fois. Un, à Dieu, en pensant rien qu'à Dieu. Deux, à moi, en pensant rien qu'à moi. Trois, à un autre, en pensant rien qu'à un autre. Quand on pense rien qu'à un autre en agissant, on l'aime.
Je vous rappelle encore une fois que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée, que nous étudions ce soir la quatrième béatitude avec M. Raymond Truchon. M. Truchon, vous semblez affirmer au sujet de la justice extérieure et intérieure que les riches, ceux qui ont la richesse matérielle, ne peuvent pas vraiment être heureux. Ma question est la suivante. Est-ce que vous voulez dire que la richesse matérielle est nécessairement un empêchement à la justice intérieure?
Bon, ça c'est très grave, peut-être même plus au Québec encore, parce que des fois on identifie l'argent à la pourriture et à quelque chose qui est mauvais, alors que c'est effrayant, parce que la richesse c'est un accomplissement. C'est effrayant de penser à une affaire comme ça.
Et que la richesse matérielle est un accomplissement.
Ben, c'est évident, la richesse matérielle est un accomplissement, à moins qu'elle empêche l'accomplissement de l'homme lui-même. Alors, c'est là qu'elle devient maudite. Par exemple, quand on dit maudite femme, pourquoi? Ben, les femmes sont bonnes, il y en a à la messe des femmes. Quand on dit maudite poisson, Ça ne veut pas dire que la boisson est mauvaise, il n'a à messe. Quand on dit maudit argent, ben de l'argent, il n'a à messe. C'est quoi qui est maudit là-dedans? C'est l'usage.
L'abus. C'est l'abus.
C'est le mauvais usage. Parce que la richesse, c'est un accomplissement. D'abord, Dieu est le plus riche des riches, c'est lui qui a tout. Ça commence mal. Salomon était un symbole d'accomplissement à cause de sa richesse. David était riche aussi. Alors, dans la Bible, la richesse, il ne faut pas oublier que l'argent, c'est un moyen de salut. Mais ça peut devenir un moyen de perdition. L'argent est une grâce de Dieu. C'est une grande grâce de Dieu, l'argent. C'est le fruit de notre travail. C'est ça qui nous permet de vivre. C'est ça qui nous permet de profiter des biens sociaux. C'est ça qui nous permet de profiter de nos dons les uns les autres en se payant pour qu'on vive. Parce qu'on n'a pas à tirer sur une banane comme au paradis terrestre, là. Alors, on a des services. Ces services-là, il faut que ça se paye, ça. Alors, l'argent, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Question ridicule. L'argent, c'est un bon serviteur, c'est un mauvais maître. Autrement dit, il ne faut jamais être esclave de l'argent. Ça prend de l'argent. Et quand on fait un vœu et qu'on n'a pas d'argent, c'est bien bon d'avoir des amis qui sont millionnaires, qui ne sont pas très loin, parce qu'on ne fera rien sans argent. Et d'ailleurs, les religieux deviennent toujours très riches. C'est l'histoire, ça vient qui étudier l'histoire. Les compagnies religieuses deviennent toujours très riches. Il y en a qui possédaient Steamship, Canada Steamship Lines. Là, aujourd'hui, c'est notre ministre des Finances qui possède ça, là. Alors, l'argent n'est jamais mauvais. Les religieux devaient réinvestir cet argent-là. Ils l'ont fait souvent aussi. Il y avait les gros hôpitaux puis tout ça, là. Mais quand on est vertueux, ça paye. Tant qu'on est vicieux, ça coûte cher. La drogue coûte cher, tandis que quand on aime une femme, elle se donne gratuitement, ça coûte pas cher. Alors, l'argent, c'est le fruit d'un accomplissement, c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une intelligence, c'est le fruit d'une créativité. Mais il faut qu'il reste à sa place. C'est-à-dire que c'est un moyen, c'est pas un but. Quand il sert à nous pervertir, quand il sert à l'assouvissement uniquement de nos instincts de posséder, nos instincts d'avoir, nos instincts de savoir, quand il ne devient pas un service, un moyen de production, un moyen de consommation, un moyen de réalisation des gens, c'est là, tout est là. C'est pour ça que si jamais on voit les paraboles à une autre émission l'an prochain, on verra le mauvais riche, qui au fond était un riche, mais pourquoi est-ce qu'il était mauvais? Parce qu'il était insensible à son frère, insensible aux besoins de celui qui était au pas de sa porte, là, puis qui avait toutes les chairs à l'air, là, puis que les mouches se promenaient là-dessus, puis s'en occupaient pas, puis faisaient semblant de ne pas le voir. Alors, l'argent, c'est un moyen de salut. L'argent est promis aux Juifs, puis d'ailleurs, il y en a, puis ils travaillent pour en avoir, puis ils sont intelligents pour en avoir. C'est le peuple élu, puis il devrait être un exemple pour nous autres d'en ramasser de l'argent,
alors,
de le placer.
Dit... Bon. Pour répondre à ma question, la richesse peut être un empêchement, mais n'est pas nécessairement un empêchement.
Voilà. Alors, Jésus dit, ben le chameau qui se débarrasse pas de ses bagages ne peut pas rentrer. Puis on dit que là, ben c'était le fil d'une aiguille, donc un riche ne peut pas rentrer dans le royaume. Jésus va dire, c'est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Mais tout ça pour dire que Dieu seul peut nous faire rentrer dans le royaume, c'est-à-dire... d'être capable de tout donner, de tout faire servir à la construction d'un autre, ce qui est l'amour.
Dans une courte prière, M. Truchon, vous écrivez « Mais l'homme a brisé et brise sans arrêt ce que tu tentes de réaliser, Seigneur, de sorte que pour plusieurs, la terre est invivable, sans espérance ni foi, et que pour d'autres, ils cherchent ici ce qui est ailleurs et ailleurs ce qui est ici. » Qu'est-ce que vous entendez par « chercher ailleurs ce qui est ici »
Ben, Saint-Augustin qui est le modèle là-dedans de la réponse. C'est qu'il disait « Ô beauté, je te cherchais dehors alors que tu étais en dedans. » Puis on sait quel dehors, de quel dehors il parlait. Alors Saint-Augustin, dans sa première partie de vie, qui a duré, Sainte-Monique a prié pour lui pendant 20 ans, il était dehors. Marc 4, 10 à 13 nous explique ce qu'est être dehors. C'est de ne pas avoir d'intériorité. C'est de chercher tout le temps l'infini dans ce qu'il n'est pas. Alors, on abuse de tout et finalement, on vient dégoûter de tout. Le gars qui est écœuré de la vie, là, c'est parce qu'il a abusé de tout. Tandis que s'il fait servir tout à sa construction et à la construction des autres, il va tout aimer. Et c'est ça la sagesse. La sagesse, d'ailleurs, ici, on pourrait voir, « Seigneur, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres, car tu n'aurais pas créé un être en ayant de la haine envers lui. Et comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment aurait-il conservé l'existence si tu ne l'y avais pas appelé? Mais tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, maître qui aime la vie, toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et qu'ils puissent croire en toi, Seigneur. Alors ça, c'est un texte de Sagesse 11:23 à 12:2.
Dieu, c'est la folie de l'amour. C'est sur ces mots que vous terminez votre chapitre sur la quatrième béatitude. Autrement dit, Dieu, les béatitudes, c'est à n'y rien comprendre. C'est l'absence ultime de raison. Est-ce que c'est bien ça?
Souvent, on est porté à penser que les béatitudes, c'est des contradictions, c'est fou raide. Au prime abord, c'est vrai que ça paraît le monde à l'envers. Mais au fond, c'est nous qui vivons à l'envers. Alors, Saint-Pierre s'était fait crucifier à tête en bas pour voir le monde à l'endroit. On vit à l'envers. On sait pourtant que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais on fait comme si c'était l'argent. Alors que dans notre premier item de budget, ça devrait être l'amour. Parce que l'amour seul permet d'équilibrer vraiment un budget. Alors, les paraboles, ce n'est pas des contradictions, c'est des paradoxes. Qu'est-ce qu'un paradoxe? C'est une vérité cachée. C'est comme un fond, un tiroir à double fond. Tu arrives au fond du tiroir, puis au fond, il y en a un autre fond. Alors, l'amour, le sens de la vie pour la personne qui ne pense qu'à lui, il ne comprend rien à ce qui arrive. Qu'est-ce qui nous fait découvrir le sens de la vie? C'est une personne qui nous aime, puis qui nous fait nous accomplir.
Quand vous affirmez que Dieu est fidèle à sa volonté de salut, on peut dire, si vous permettez, que Dieu a une idée fixe, non? Mais Dieu doit avoir bien d'autres projets que celui de sauver l'humanité. Est-ce que ce n'est pas un peu étroit, égocentrique, humano-centrique que de considérer le dessein de Dieu tout entier, uniquement sous l'aspect de ce qui concerne la nature humaine?
je trouve ça bon, la façon de dire les choses. C'est certain que quand on aime quelqu'un, on pense rien qu'à lui. Au fond, aimer quelqu'un, c'est une obsession, mais c'est une obsession libératrice. Dieu ne peut pas faire autrement qu'aimer et exprimer son être en nous aimant. Alors, évidemment, Dieu n'est pas été obligé de nous créer, mais Dieu pense toujours à nous. Il est fou de nous autres. Il nous a rêvés de toute éternité. Éphésiens 1, 3 à 7. Dieu nous aime, il nous aime, il nous aime. Puis nous autres, nous avons à découvrir ça puis à en vivre. Et c'est pour ça qu'on vient au monde. C'est pour aller le voir un jour.